Maintenant, Journal des Amériques et d'Haïti, Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, la polémique aux États-Unis autour des tweets de Donald Trump dans lesquels il conseille à 4 députés démocrates issus des minorités de rentrer chez elles, tollé aux États-Unis où les élus visés dénoncent des attaques racistes. On en parlera dans la revue de presse d'Arim Lipold. On parlera aussi de cette décision du gouvernement américain de ne plus accorder l'asile aux migrants venant du Mexique, une décision que Mexico dénonce comme contraire au droit international. Et puis on ira en Bolivie où la production de café prend un nouvel essor sous l'impulsion de producteurs qui veulent redynamiser le secteur. La revue de presse avec vous, Arim Lipold, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On prend la direction de Washington, sans tarder, où les propos racistes du président américain, dénoncés comme racistes envers des élus démocrates, alimentent toujours les commentaires des journaux.
Oui, la presse dénonce aujourd'hui la lâcheté des républicains qui n'ont pas souhaité condamner ces propos jugés racistes. Le Washington Post, par exemple, note un changement dans l'attitude des élus républicains, mais aussi de certaines entreprises. Lorsqu'en 2015, par exemple, le président, pendant la campagne électorale, avait qualifié les immigrants mexicains de criminels et de violeurs, eh bien, la chaîne de magasins Macy's s'était empressée de couper tout lien avec le candidat. En 2016, était apparue, souvenez-vous, la fameuse vidéo révélant des propos dégradants de Donald Trump à l'égard des femmes, et plusieurs dirigeants républicains avaient brièvement retiré leur soutien au candidat. Mais cette fois-ci, les réactions ont été différentes. Donald Trump a pu aller devant la presse au lendemain de ces tweets racistes contre 4 élus démocrates avec le torse bombé, sûr d'avoir le soutien plein et entier de son parti, écrit le Washington Post.
En fait, Arim, si ces propos sont une manœuvre de diversion, ils montrent aussi une chose, Trump n'a aucun intérêt à rassembler une majorité des Américains derrière lui.
Exactement, c'est l'analyse du New York Times. Aujourd'hui, Anne, l'objectif du président, écrit le journal, c'est de séduire le noyau dur de sa base, de continuer à s'adresser aux instincts les plus bas de ses sympathisants. Au lieu de rassembler, il divise les Américains de plus en plus en provoquant la colère de ses opposants, des opposants qui se trouvent du coup dans une position difficile, analyse le New York Times. Ils peuvent participer à sa manœuvre de diversion, prendre le ballon et le renvoyer, ou alors l'ignorer avec le risque de contribuer à une banalisation d'une telle attitude.
Alors Arim, le président américain a au moins réussi une chose, même si c'est brièvement, c'est rassembler une opposition divisée, l'opposition démocrate. C'est l'opinion de l'historien et spécialiste des États-Unis Corentin Célin.
Si sur le moyen long terme, Donald Trump est dans l'affirmation de sa doctrine, sur l'affirmation d'un nationalisme et d'une identité blanche, par contre c'est une erreur tactique politique. Il y a toujours un coup à jouer pour lui en jouant sur la division des démocrates. Il l'a un peu gâché en choquant là, peut-être un petit peu trop. Il a ressoudé au moins momentanément les démocrates et c'était peut-être pas très très bien joué.
Il a peut-être soudé à court terme les démocrates qui ont toujours pas de projet commun en fait pour faire face à Donald Trump pour la présidentielle de l'an prochain qui s'approche.
Tout à fait. Ocasio-Cortez ne veut aucun compromis, disant justement il faut faire un peu ce que Trump a fait dans le camp d'en face, s'appuyer sur les éléments les plus radicaux de notre camp pour mobiliser les minorités, les jeunes de 18 à 35 ans, tandis que Pelosi dit au contraire non, il faudra une majorité large pour vaincre Trump. Ce sont deux visions incompatibles et la primaire démocrate qui doit trancher cette ligne n'en est qu'à ses balbutiements, et forcément là pendant au moins encore 9 mois les démocrates sont un petit peu dépourvus de ligne directrice. Ça n'a pas été encore tranché et ça évidemment ça avantage Trump.
Des propos recueillis par Christophe Paget. Autre sujet très commenté dans la presse aujourd'hui aux États-Unis mais aussi au Mexique, la décision du gouvernement américain de limiter l'accès à l'asile pour les migrants.
Oui, l'administration Trump a fait savoir hier lundi qu'elle refuserait à partir d'aujourd'hui les demandes d'asile formulées à la frontière sud par des migrants qui n'auraient pas sollicité le statut de réfugié au Mexique ou dans un autre pays traversé sous la route des États-Unis. La réaction du Mexique n'a pas tardé. Écoutez le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard. Le Mexique n'est pas d'accord avec les mesures qui verrouillent l'accès à l'asile ou au statut de réfugié, des mesures qui visent ceux qui craignent pour leur vie dans leur pays d'origine, a déclaré le chef de la diplomatie mexicaine. C'est à la une du journal El Financiero. La décision américaine transforme le Mexique de facto en un pays tiers sûr, estime des ONG mexicaines citées par le journal La Razón.
C'est une exclusivité CNN. Selon la chaîne, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, aujourd'hui emprisonné à Londres, aurait transformé l'ambassade équatorienne au Royaume-Uni, où il était réfugié, en un poste de commandement pour influencer les élections américaines de 2016.
Oui, CNN publie des vidéos et des photos montrant des colis livrés à l'ambassade pour les colis à destination de Julian Assange. Un des livreurs, par exemple, portait un masque sur son visage. D'après CNN, il s'agit là des documents contenant des données piratées, des données censées influencer l'élection présidentielle américaine de 2016. Julian Assange a reçu aussi la visite de nombreux hackers de nationalité russe et d'autres pays. Il a aussi obtenu du matériel informatique sophistiqué pour transmettre des données, et cela quelques semaines avant que Wikileaks n'ait reçu de nouvelles informations de la part des Russes, écrit CNN sur leur site.
Direction Haïti, maintenant à Rime. Vous avez joint il y a quelques minutes Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence Alter Presse.
Oui, pour des raisons techniques, Anne, nous avons enregistré l'entretien avec Godson Pierre. Effectivement, Godson Pierre qui revient d'abord sur les suites de l'affaire Petro-Caribe, la demande d'expertise faite à l'Organisation des États américains par le président Jovenel Moïse a provoqué beaucoup, beaucoup de réactions.
Alors oui, justement, il y a des réactions qui continuent. Le collectif 4 décembre qui parle de trahison à l'égard des institutions haïtiennes et encourage les organisations de la société civile, les forces vives de Haïti à faire front commun contre ce que le collectif appelle une infamie. D'autres organisations vont dans le même sens, comme la PAPDA, qui estime que Jovenel Moïse a craché sur les institutions haïtiennes. Donc, comme vous le voyez, c'est carrément une levée de bouclier d'indignation après ces démarches de Jovenel Moïse. Laissez-moi vous lire un tweet d'un homme politique, Clarence Renoir, qui dit « Quel pays étrange, la justice est partisane, eh bien, faisons appel à des juges étrangers ». Le Parlement ne fonctionne pas, engageons des parlementaires étrangers. Le président est contesté, prenons un président étranger, ironise-t-il.
Autre sujet, c'est le moratoire, un moratoire que le gouvernement haïtien demande au Chili, un moratoire sur l'expulsion annoncée de milliers d'Haïtiens, et le gouvernement haïtien demande aux autorités chiliennes de retarder cette expulsion annoncée.
Le ministre des Affaires étrangères, Bushit Edmond, a en effet confirmé avoir tenté de solliciter de la part du Chili cette prorogation du délai du 22 juillet. Ce sont plusieurs milliers de migrants haïtiens qui risquent d'être déportés vers Haïti s'ils n'arrivent pas à se procurer avant le 23 juillet des documents de régularisation. Et des efforts sont en cours en Haïti, selon ce que confirme le ministre, en vue de fournir à temps des casiers judiciaires et d'autres dossiers.
Toujours à la une en Haïti et bien sûr aussi sur le site d'Alter Presse, c'est le débat sur l'insécurité dans le pays avec des déclarations du secrétaire d'État à la sécurité publique qui promet de nouvelles dispositions.
Eh bien oui, de nouvelles dispositions, surtout dans le cadre des vacances d'été. L'été, c'est la période où les gens se déplacent beaucoup en Haïti, bon, comme partout ailleurs, mais ici, il y a les fêtes champêtres et les gens doivent revenir dans leur région pour aller participer à ces fêtes. Donc, ce qui fait beaucoup de déplacements et le secrétaire d'État a dû donc annoncer un plan de sécurité vacances. C'est comme ça qu'on appelle ce plan, avec des unités spécialisées, des chars blindés qui seraient déployés dans les quartiers réputés chauds de Port-au-Prince et des villes de province où des gangs se sont établis. En effet, c'est avec le cœur serré et beaucoup d'anxiété qu'on se déplace maintenant. Mais pour tenter de rassurer et pour montrer que les forces de l'ordre sont bien en contrôle de la situation, le secrétaire d'État a annoncé que 4 présumés bandits qui seraient impliqués dans des derniers actes de violence perpétrés le 10 juillet à La Saline, un quartier de Port-au-Prince, ont été arrêtés.
Et est-ce que vous pensez, Godson Pierre, que cela suffit pour rassurer les Haïtiens?
Ben, je vous avoue que ces 4 arrestations ne vont pas assurer ou rassurer les Haïtiens, surtout qu'on ne sent pas qu'il y a vraiment un contrôle de la situation ni dans les quartiers, ni dans les zones, les régions où les gangs se sont établis et continuent de fonctionner comme à l'ordinaire. On apprend tous les jours que des voitures ont été capturées, que des gens ont été arrêtés sur les routes et les exactions continuent de se produire dans diverses régions sans qu'on sente vraiment un retour de la sécurité.
Merci beaucoup, Godson Pierre, pour toutes ces informations. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
RFI à Gonaïve, 90.5 FM.
On part en Bolivie à présent, la Bolivie qui produit 0,2% du café dans le monde, un chiffre bien peu élevé par rapport à ses voisins, le Brésil ou la Colombie, qui sont parmi les premiers producteurs au monde. Ces 10 dernières années, la production bolivienne a énormément chuté, les plantations sont vieillissantes, les méthodes n'ont pas été renouvelées, des maladies touchent également les caféiers. Mais le pays vit actuellement un petit boom du café. Depuis 5 ans, des lieux apparaissent dans les grandes villes spécialisées dans les cafés dits de spécialité, soit de très grande qualité. Les cafés boliviens gagnent aujourd'hui des concours internationaux. Bref, les Boliviens amoureux du café se permettent de rêver à un marché en expansion qui, pour le moment, peine à atteindre les 10 millions de dollars. Le reportage d'Alice Campagnol à La Paz.
Au Café Ina, le cappuccino est préparé avec sérieux. L'établissement a ouvert il y a un peu plus d'un an dans le courant des cafés dits de spécialité à La Paz. Pablo Paz, le propriétaire, voit grand. Pour lui, le café est une opportunité à saisir.
En fait, nous vivons un boom gastronomique. La Paz est placée sur un axe touristique en Amérique latine et les touristes cherchent à découvrir la culture vivante de la ville. Et ici, eh bien, la culture vivante, c'est la gastronomie. Le café s'est faufilé dans cette brèche. Notre but, c'est d'une part faire connaître aux touristes le café bolivien et d'autre part de le promouvoir sur le marché local pour les consommateurs nationaux. Et enfin, pour nous, c'est un premier pas pour débuter sur le marché des exportations.
Caféina achète un demi-kilo de café à environ 3 dollars, mais pour les grands crus, les prix peuvent être multipliés par 10. Le café est donc un marché intéressant à l'export, mais aussi pour les agriculteurs. Après tout, ce sont plus de 2 milliards de tasses de café qui sont bues chaque jour dans le monde et autant d'emplois possibles. Aujourd'hui, 17 000 familles font pousser du café en Bolivie, alors le Fonds Rural de Développement, organisme du ministère de l'Agriculture, a décidé de passer à l'attaque. José Luis Quispe.
Nous avons lancé le programme national de café, un programme qui a plusieurs branches. Il y a l'assistance technique aux producteurs, tout d'abord. On traite également du thème de l'innovation, des normes sanitaires, mais aussi comment conquérir les marchés. On attend beaucoup de ce programme. On espère un véritable effet de levier. Il y a plusieurs défis à relever. Par exemple, nous aimerions d'ici 5 ans produire 5 fois plus. On produit actuellement 30 000 sacs. L'idée, c'est d'arriver à
170 000 sacs.
La Bolivie produit à peine 2100 tonnes de café par an. En comparaison, le Brésil, premier producteur mondial, en vend 3 700 000 tonnes. L'objectif pour la Bolivie est donc d'augmenter les rendements, renouveler les plantations, améliorer les processus. Produire plus, certes, mais produire bien, du café de grande qualité. Et Caféina n'est pas le seul établissement à s'être lancé dans la boisson si convoitée, le Tipica également. En 4 ans, ce café a désormais plusieurs succursales dans le pays et embauche 80 personnes. Agris Sogota, l'un des gérants, pense qu'il a su surfer sur une mode.
Chaque jour, un peu plus, on voit des étrangers venir ici chercher du café bolivien. Car c'est devenu quelque chose de très à la mode, de très exotique d'avoir du café de Bolivie. Comme tous les marchés, celui du café y compris, les gens cherchent la nouveauté, l'authenticité et l'exclusivité. Et ça, la Bolivie peut l'offrir. De grandes quantités de café, c'est impossible. Nous pouvons seulement proposer de petites quantités, mais de très grandes qualités.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, au Tipica, ces dégustations de café. Christian Sankali est barista et fait découvrir le monde de la dégustation à une dizaine de personnes. L'idée ici, que le client bolivien découvre le café de spécialité et sache le déguster. À peine 5% de la production de café en Bolivie est consommée dans le pays, le reste va à l'export. Et c'est le comble, le pays importerait pour 15 millions de dollars de café soluble.
À Discampeñol, La Paz, RFI.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y de...
L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première Caraïbe présenté par Alex Léveillé. Bonjour Alex.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui, il y a de moins en moins de distributeurs automatiques à certains endroits de la Martinique.
Oui, en effet, l'investissement est devenu trop coûteux pour la mise en place de ces distributeurs de billets. Conséquence, les banques réduisent leur installation. Les explications de Grégory Gabour de Martinique La Première.
C'était il y a quelques mois. La direction du Crédit Agricole passe au crible les résultats d'une enquête sur la rentabilité de ses distributeurs automatiques. Enquête qu'il a commandée. La suite avec Jean-Luc Herry, directeur général adjoint de la banque en Martinique et en Guyane.
Nous en avions près d'une quarantaine et tous étaient déficitaires. Donc oui, nous avons décidé pour les automates hors site, je le répète, de les supprimer. Pour des raisons purement financières, purement économiques.
Et la facture est salée, au moins 200 000 euros de pertes par an. Pour la banque, impossible de poursuivre dans ces conditions, déclare la direction. Ces guichets supprimés ont pour point commun d'être tous situés hors agence. Les survivants se comptent d'ailleurs sur les doigts d'une main. Et pour cause, ces distributeurs hors site représentaient un coût supplémentaire pour l'établissement, avec les loyers parfois élevés que lui faisaient payer les propriétaires des lieux où les guichets étaient installés, stations-service, centres commerciaux, entre autres. Coûts rarement amortis à cause notamment d'une baisse de fréquentation liée à l'augmentation des paiements sans contact et par carte bancaire. Pas étonnant dès lors de voir certaines banques faire le ménage et le mouvement devrait être général selon Jean-Luc Herry.
Je connais bien évidemment mieux le Crédit Agricole que les autres banques et nos concurrents, mais je pense que les autres banques vont regarder de plus près leur compte d'exploitation des automates, arriveront à la même conclusion. Et donc, suivons le mouvement.
Mouvement qui n'en est pour l'instant qu'à ses débuts. Interrogé il y a quelques mois, deux des principales banques de la place disaient n'avoir pas touché à leur parc.
Un sujet signé Grégory Gabour de Martinique La Première. Et en cette période de vacances, le Conseil économique et social régional de la Guadeloupe se mobilise pour un tourisme durable sur l'archipel. Une option qui a nécessité de définir les actions à mener. Le point avec Claude Danicon de Guadeloupe La Première.
On assiste depuis quelque temps à une vraie mutation dans le secteur touristique. La plage et le soleil ne constituent manifestement plus les seuls produits d'appel ou encore recherchés par nos visiteurs. Et ils sont nombreux du côté des spécialistes à penser que l'avenir de la Guadeloupe dans le domaine n'est pas forcément dans le tourisme de masse. Deux ans après la proclamation de l'année internationale du tourisme durable, certains plaident à l'instar de bien des pays de la Caraïbe pour positionner notre territoire vers un tourisme durable. C'est le cas du Conseil économique et social régional qui s'est fixé comme objectif de promouvoir un produit touristique vers la durabilité tout en valorisant le territoire et sa biodiversité au bénéfice du grand nombre, tout au moins des populations accueillantes. Et le Césaire se veut rassurant, pas question donc de rentrer dans des conflits institutionnels ou encore de se substituer aux instances compétentes. Mais il s'agit bien là de faire avec et aux côtés des spécialistes et autres professionnels du secteur.
Claude Danicon de Guadeloupe La Première. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à Diane Conné pour la mise en onde. Excellente journée à tous.
Merci Alex Léveillé. Très bonne journée à vous également. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, 14h10, heure de Paris. N'oubliez pas notre site internet www.rfi.fr. Vous allez dans Émission et puis Journal d'Haïti et des Amériques. Restez avec nous.
Au cœur du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika,
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
Dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
Dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer,
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.